Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Le cancer, parlons-en en famille, parce qu'une fois sur 10, il est héréditaire et qu'un même gène dépisté suffisamment tôt permet de sauver des vies. Cancer du sein, de la prostate, les femmes ne sont pas les seules concernées. Explication dans un instant. Ils vont plancher pour le bac dès cet après-midi. Premières épreuves de spécialité pour les terminales, pas tout à fait rassurées. On va les entendre. Contre les fables de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen à l'offensive. La place de première opposante à Emmanuel Macron, c'est la sienne. Quant à votre invité Nicolas, la politique est aussi son affaire, mais son métier c'est l'écriture et sa place au sommet de la littérature.
Oh oui, au sommet, l'écrivaine Annie Ernaux, invitée du grand entretien de la matinale. Son nouveau livre, Le jeune homme, vient de paraître aux éditions Gallimard. Elle est par ailleurs l'objet d'un magnifique cahier de Lerne consacré à son œuvre. Rendez-vous vers 8h22.
Retour à Gaza, un an après la guerre, alors que la situation se complique de nouveau entre Israéliens et Palestiniens, le chef du Hamas est clairement dans le viseur de l'armée israélienne. Dans ce journal aussi, France Télécom acte 2 en justice, début du procès en appel de ses anciens dirigeants après la vague de suicides de la fin des années 2000. Et puis l'homme vaincu par la machine quand Kasparov perdait aux échecs contre un ordinateur. C'était il y a 25 ans les prémices de notre vie d'aujourd'hui.
France Inter.
C'est une campagne d'affichage qui a fleuri ce printemps et un mot-clé sur les réseaux sociaux BRCA. J'en parle, BRCA. C'est le nom d'un gène dont la mutation est le signe de certains cancers héréditaires, tumeurs au sein, qui se transmettent de mère en fille. Angelina Jolie, souvenez-vous, a été la première à en parler publiquement à l'occasion de son opération préventive. Quand une personne est malade, c'est donc toute sa famille qui doit être prévenue, les femmes comme les hommes, ce qui est encore loin d'être systématique, Anne Orenstein.
C'est à la mort de sa sœur, atteinte d'un cancer du sein, qu'Arthur, comme toute sa famille, décide de passer le test de la mutation du gène BRCA.
C'était devenu normal, il fallait qu'on en sache un peu plus. Dans un premier temps, donc du coup, pour me protéger, moi, savoir si j'avais les risques d'avoir un cancer. Et ensuite, je voudrais pas transmettre ce gène à un futur enfant.
Arthur devra passer par une FIV et un diagnostic préimplantatoire pour écarter tout risque de transmission de la mutation. Quant à lui, toute sa vie, il sera surveillé de très près. Chez les femmes BRCA, la probabilité de développer un cancer du sein est de 7 sur 10. Menace qui plane aussi sur la poitrine d'Arthur, mais également sur sa prostate. Une découverte assez récente, précise le professeur Pascal Pujol, chef du service d'oncogénétique du CHU de Montpellier.
La prostate a été sous-évaluée dans notre vision initiale du risque génétique de cancer, mais il y a autant de cancers de la prostate liés au gène BRCA qu'il y en a pour le cancer du sein.
Dans les familles, le sujet reste tabou et pourtant il est essentiel d'en parler.
Cette information, qui est une information de risque, débouche sur une amélioration significative de la prise en charge. Parce qu'on a du dépistage et parce qu'on a également des traitements, et ça c'est nouveau, ça peut réellement sauver des vies.
Chez les femmes, la mortalité des cancers du sein et de l'ovaire diminue de 80% quand la mutation est repérée.
Voilà, et 5 à 10 cancers, 10% des cancers sont héréditaires.
Il est 8h04, ils vont plancher Florence pour un tiers de leur note au bac.
520 000 candidats de terminale face aux épreuves de spécialité du nouveau bac, ils essuieront les plâtres après 2 ans de Covid. Convoqué aujourd'hui, demain et après-demain pour 2 écrits. Anissa passera l'histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques et l'anglais, monde contemporain. Élève du lycée Claude Bernard à Paris, confiante, mais pas complètement détendue au micro de Sonia Princey.
Je pense que j'ai bien travaillé chez moi, j'ai bien avancé par rapport du coup à l'apprentissage des différents thèmes, etc. Maintenant, je pense que le stress prend un peu le dessus petit à petit. Enfin, plus on s'approche de l'épreuve, mais en termes de connaissances, normalement, tout est bon. Après, l'idée des spécialités et l'idée même de passer des épreuves, je la trouve pas mauvaise en soi, puisque finalement, c'est des matières qu'on a choisies nous-mêmes. Donc, normalement, ça devrait bien se passer.
T'es quand même confiante?
Oui, un peu.
À moitié,
c'est ça.
Voilà, et pour connaître leur note de spécialité, les candidats devront attendre les résultats du bac début juillet. Pour lui, c'est bientôt les vacances. Jean Castex, une dernière fois autour de la table du Conseil des ministres ce matin, avant de quitter Matignon. La démission du gouvernement est attendue à partir de vendredi, après un dîner d'adieu organisé demain soir par le Premier ministre. Et si Jean-Luc Mélenchon veut prendre sa place, Marine Le Pen n'en manifeste pas l'intention, finaliste du second tour et candidate aux législatives. Elle a donné hier soir sa première interview télé sur TF1 depuis sa défaite, avec un objectif affiché, Élodie Forêt, prendre la tête de l'opposition.
Face à l'offensive de Jean-Luc Mélenchon, défendre sa place de première opposante est la nouvelle obsession de Marine Le Pen. C'est donc à l'union de la gauche qu'elle réserve d'abord ses coups.
Le NUPES,
comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire en réalité l'extrême gauche alliée à la gauche, c'est l'opposition qui va défendre le burkini à la piscine, qui veut ouvrir les prisons, qui veut régulariser les clandestins, qui veut augmenter les impôts de 270 milliards, c'est-à-dire l'équivalent de 4 fois l'impôt sur le revenu en plus, qui veut désarmer la police. Eh bien, je crois que les Français ne veulent pas de cette opposition-là.
Une gauche complice de l'élection d'Emmanuel Macron, poursuit Marine Le Pen, qui sur ses objectifs se montre moins ambitieuse que ses adversaires. Un groupe à l'Assemblée, sans préciser le nombre de parlementaires.
Ce sont les Français qui vont le dire. J'espère que nous allons entrer en nombre, évidemment, à l'Assemblée nationale. Mais déjà, lorsque nous étions 7, nous avons existé, je crois, et fait un travail très sérieux pendant 5 ans. Et les Français, probablement, pensaient que nous étions beaucoup plus nombreux. Donc imaginez, si nous sommes plus nombreux, nous serons encore plus efficaces.
Parmi les terres de conquête, les Hauts-de-France, l'Est, le Sud-Est aussi, malgré la concurrence du parti d'Éric Zemmour, qui pourrait affaiblir les candidats du RN dans plusieurs circonscriptions, des candidats que Marine Le Pen ira soutenir ces prochaines semaines.
Et lui, décidément, ne suit plus la ligne du Rassemblement national. Robert Ménard, le maire de Béziers, dans un plaidoyer pro-européen et pro-démocratie, écrit ce matin dans le Figaro pourquoi il souhaite la victoire de la majorité présidentielle élargie à une partie de la droite face au danger Mélenchon. L'Insoumis et sa nouvelle Union populaire qui publie la liste de ses 324 premiers candidats investis pour les législatives, avec une circonscription vacante, la quatrième des Bouches-du-Rhône, celle de Jean-Luc Mélenchon, précisément, qui semblait jusque-là ne pas vouloir se représenter. Tous, en tout cas, ont en commun cette préoccupation des Français, le pouvoir d'achat qui baisse. À Bercy, Bruno Le Maire recevra cet après-midi les associations de consommateurs face à une inflation qui ne cesse de grimper, contraignant de plus en plus de familles à recourir à l'aide alimentaire. Reportage dans une antenne du Secours Populaire de Colomiers, près de Toulouse, signé Hugo Charpentier.
Sur les étals du Secours Populaire, les premières barquettes de fraises de l'année. Mariama, bénévole, les propose à prix cassé.
1 euro. Au lieu de 4 euros, j'ai vu le taux. Les familles achètent beaucoup.
Et parmi ses bénéficiaires, il y a Siem, une fonctionnaire de 39 ans, maman de 3 enfants.
Moi, je gagne 1500 euros par mois. On n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Et là, c'est vrai que ça devient difficile. Nos salaires restent inchangés alors qu'on a un coût de la vie qui augmente tous les jours. Et puis encore plus ces derniers temps, compte tenu de l'actualité la récente.
Pour Siem, comme pour Monique, une retraitée 68 ans, il n'y a pas d'autre alternative.
C'est parce qu'on gagne à la retraite qu'on s'en sort. Il faut payer le loyer, l'eau, l'électricité. C'est pour ça, pour faire un cours, je préfère venir ici. C'est comme ma famille.
Une grande famille qui ne cesse hélas de s'agrandir ces derniers temps, comme l'explique Benjamin Blanc, le responsable du Secours Populaire à Colomiers.
On a connu une légère diminution suite à la fin des confinements. Et là, on sent depuis janvier que ça repart à la hausse. Alors les nouveaux publics, c'est des gens qui arrivaient tant bien que mal à terminer les fins de mois et qui aujourd'hui ont basculer dans la précarité, qui n'arrive plus à s'en sortir pour pouvoir continuer à vivre, ou même survivre, on peut dire.
Les bénévoles s'attendent à accueillir d'ici peu encore plus de monde, alors pour faire face, ils envisagent d'ouvrir le local une demi-journée supplémentaire le week-end.
Hugo Charpentier, cette inflation qui entame notre pouvoir d'achat, c'est la conséquence de la guerre en Ukraine, mais aussi des confinements drastiques en Chine. Politique zéro Covid qui pousse les Chinois à bout et qui commence à faire sérieusement souffrir l'économie. Sébastien Berriot, toute l'industrie en paye le prix.
Dans cette usine de Canton spécialisée dans la fabrication de meubles pour l'exportation, produire est devenu un casse-tête quotidien. Avec les restrictions sanitaires, l'acheminement des matières premières est désormais aléatoire, se désole la patronne de l'usine.
Le transport des matériaux pose problème. Par exemple, Dongguan a été confiné. En avril, tous nos matériaux n'ont pas pu être livrés. Nous n'avons plus les moyens d'organiser la production de manière normale.
Difficulté aussi de main-d'œuvre pour cette entreprise étrangère qui produit des tours mécaniques dans le nord de la Chine. Impossible chaque matin de savoir combien d'ouvriers seront présents.
La plupart de nos ouvriers vivent dans la province de Hebei. Ils viennent dans notre usine d'assemblage à Tianjin. Avec l'épidémie, certains peuvent venir, mais d'autres non, car ils sont en quarantaine. Cela a un impact réel sur notre production.
Lassés par les mesures sanitaires et la fermeture des frontières de la Chine, les clients étrangers de l'usine de meubles de Canton commencent à partir ailleurs.
J'espère que nos clients étrangers pourront bientôt venir en Chine. Aujourd'hui, à cause de notre situation, ils préfèrent aller acheter au Vietnam ou en Indonésie. Mes clients du Moyen-Orient me disent qu'ils sont allés en Turquie, même si là-bas, les meubles sont un peu plus chers, mais il n'y a pas de restrictions sanitaires.
Dans ces conditions, le risque pour la Chine est de ne pas pouvoir tenir son objectif ambitieux de croissance pour 2022 à 5,5%. Pékin, Sébastien Berriot, France Inter.
Comme dans un film sur la mafia, la scène a eu lieu sur une île colombienne des Caraïbes. Le procureur anti-drogue du Paraguay s'y trouvait en lune de miel avec sa femme sur la plage lorsque deux hommes débarquent en jet ski, ouvrent le feu et l'assassinent au milieu des touristes. La police promet une récompense de $500,000 pour toute information qui permettrait de capturer les tueurs. Elle était une des journalistes vedettes de la chaîne Al Jazeera. Shirin Abu Akleh est morte ce matin en Cisjordanie occupée. Tuée de sang-froid, selon la chaîne, par un tir de l'armée israélienne, alors qu'elle couvrait des affrontements dans le secteur de Jenin. C'est donc le retour de la violence en Israël et dans les territoires palestiniens. On y assiste depuis plusieurs semaines, attentats en Israël, opérations de l'armée dans les territoires, alors qu'il y a un an, c'était la guerre. 11 jours de roquettes tirées sur Israël et de bombardements à Gaza. Le Hamas à la manœuvre, un an plus tard, le chef de l'organisation est plus que jamais dans le viseur des Israéliens. Envoyé spécial à Gaza, Frédéric Mettezo.
Dans ce quartier résidentiel, seule une guérite de policiers permet d'identifier les bureaux de Yahya Sinwar près d'une école. Faut-il l'assassiner ? 60% des téléspectateurs de la chaîne israélienne 13 répondent oui. Le porte-parole du Hamas, Azem Kassem, relativise.
C'est de l'agitation médiatique israélienne. C'est une mentalité de terreur qui prévaut dans ces médias. C'est de l'agitation de parler de tuer un homme politique. Yahya Sinwar est un combattant entêté. Il ne prend pas ses menaces au sérieux.
Les Israéliens reprochent à Sinwar son discours ultra-violent d'il y a 10 jours, un appel au meurtre de juifs, au pistolet ou à l'arme blanche. Israël, les États-Unis et l'Union européenne considèrent le Hamas comme terroriste, mais pas Bassem Naïm, de son bureau politique.
Israël est un pouvoir d'occupation. Les médias européens ont applaudi et salué la résistance du peuple ukrainien. Pourquoi les Palestiniens n'auraient-ils pas ce même droit de résister ? Exécuter ou assassiner des chefs n'aidera pas à mettre fin au conflit. Toute attaque ou agression contre Gaza pourrait facilement déboucher sur une guerre régionale majeure.
Le ministre du renseignement israélien rappelle que l'on n'annonce jamais un assassinat ciblé, mais qu'on préfère voir certaines personnes plutôt mortes que vivantes. Gaza, Frédéric Mettezo, France Inter.
40 milliards de dollars pour l'Ukraine, budget faramineux voté hier à Washington par la Chambre des représentants. La loi doit maintenant passer rapidement devant le Sénat américain pour aider l'Ukraine donc et affaiblir Vladimir Poutine. Et puis c'était le premier président de l'Ukraine indépendante, un homme qui avait aussi contribué à déboulonner l'URSS, Leonid Kravchuk. Chouk est mort hier à l'âge de 88 ans.
Il est 8h13, symbole du management par le vide, Florence, et des suicides en entreprise.
Le nom de France Télécom résonnera de nouveau devant la justice à partir d'aujourd'hui. Procès en appel pour Didier Lombard, l'ancien PDG et son numéro 2 de l'époque, condamné pour harcèlement moral il y a 3 ans, après la terrible vague de suicides de la fin des années 2000, Mathilde Vinceneux.
Au premier procès, les deux anciens dirigeants ont toujours contesté les faits. L'ancien PDG Didier Lombard a même nié l'existence d'une crise sociale à France Télécom. Mais dans son jugement, le tribunal a estimé qu'ils étaient bien à l'origine d'une politique jusqu'au boutiste de réduction des effectifs. Deux plans lancés en 2007 pour faire partir 22 000 salariés en 3 ans. C'est à la fin de cette période que les suicides ont commencé. L'accusation en a compté 19, auxquelles s'ajoutent 12 tentatives et une dizaine de dépressions d'arrêt de travail. Les juges ont considéré que la politique de l'entreprise a entraîné la mise en place d'un harcèlement moral institutionnalisé. C'est inédit. France Télécom, devenue Orange, est la première entreprise du CAC 40 à être condamnée pour cela. 75 000 euros d'amende. Elle n'a pas fait appel. Un autre dirigeant condamné a lui renoncé. Cette fois, sur le banc des prévenus, il y aura donc moins de monde. Aux côtés des anciens numéro 1 et numéro 2, 4 cadres seront jugés pour complicité de harcèlement moral.
Et en première instance, Didier Lombard et son numéro 2 avaient été condamnés à 1 an de prison, dont 4 mois ferme. Quand Elon Musk veut réhabiliter Donald Trump sur Twitter, dans la droite ligne de sa volonté de ne plus censurer le réseau social qu'il veut acheter, avalanche de critiques aux États-Unis où l'ancien président est banni de Twitter depuis l'attaque du Capitole. Avis aux abonnés des plateformes type Netflix maintenant. Et si vous vendiez vos codes d'accès au lieu de les donner à la famille et aux amis ? C'est le principe que voudrait bien nous faire adopter une start-up, Agnès Soubiran, qui propose des formules de co-abonnement et nous vend de larges économies.
Vous avez souscrit un abonnement sur une plateforme de musique pour 4 personnes, vous avez donné vos codes à votre cousine, il vous reste donc 2 places que vous pouvez désormais proposer sur Divi, une start-up créée il y a un mois par 2 frères tout juste diplômés. Cela permet donc aux propriétaires du compte et aux nouveaux co-abonnés de réaliser des économies substantielles. Anthony Chemali, cofondateur de Divi.
Par exemple, pour une personne qui possède un abonnement Netflix, Spotify, PlayStation et Amazon Prime, au lieu de payer 575 € par an, on rejoint ses abonnements sur Divi, elle ne paiera que 145 € par an. C'est vraiment un gain de pouvoir d'achat. Un accès à la culture, plus de plateformes de presse écrite, c'est vraiment une plateforme qui est ancrée dans l'économie collaborative.
Pour un maximum de sécurité lors des transactions, Divi a noué un partenariat avec la Société Générale et a reçu l'aval de la Banque de France. Le retour à la légalité, c'est d'ailleurs ce qui pourrait aussi séduire les millions de personnes qui utilisent parfois frauduleusement des codes. Mathilde Abel est doctorante en économie des plateformes à la Sorbonne Nouvelle.
Puisqu'on est dans un contexte un peu d'intensité de cette recherche par les plateformes d'utilisateurs un peu surnuméraires, voilà, on va peut-être vouloir se dire que non seulement on peut faire des économies et en parallèle rentrer dans la légalité.
Une initiative qui intervient dans un contexte où justement les plateformes réfléchissent à de nouveaux systèmes pour mieux contrôler le partage des comptes.
Et Netflix, Deezer et leurs algorithmes ont-ils trouvé naissance il y a 25 ans lorsque pour la première fois la machine a battu l'homme aux échecs Deep Blue, l'ordinateur vainqueur du champion Garry Kasparov. Un coup de tonnerre en ce 11 mai 1997 qui préfigure l'ère de l'intelligence artificielle et notre vie d'aujourd'hui, Xavier Monferrand.
Ouais, à l'époque, pour IBM, ce duel de l'homme face à la machine montre surtout comment les humains peuvent utiliser la technologie pour résoudre des problèmes complexes. Le géant informatique est convaincu de tout ce que l'intelligence artificielle pourrait apporter à l'humanité, de l'analyse financière à l'étude de phénomènes naturels, météo ou sismiques. 25 ans plus tard, on sait que ce n'était pas un rêve d'inventeur fou. Deep Blue est partout dans notre quotidien, des réseaux sociaux jusqu'à nos barbecues, hein, tout est désormais connecté et derrière cette super connexion, il y a donc l'intelligence artificielle est en train de révolutionner de nombreux domaines, le sport notamment, des robots capables d'affronter ou de remplacer l'homme en tennis de table, en golf, en basket et j'en passe. L'intelligence artificielle est aussi en train de déplacer les frontières du corps des joueurs, bardés de capteurs, des ballons et des vélos connectés, des projections pour savoir qui sera une star de sa discipline dans 5, 8 ou 10 ans et donc sur qui investir des millions. Bienvenue dans l'ère de l'être humain augmenté. C'est un peu ce qu'avait imaginé Enki Bilal dans ses bandes dessinées avec ses joueurs mi-hommes, mi-robots. C'était 10 ans avant la victoire de Kasparov.
Et c'est aussi, merci Xavier Monferrand, l'intelligence artificielle des algorithmes qui ont tué l'iPod, célèbre petit rectangle blanc d'Apple. Il a révolutionné l'écoute de la musique au début des années 2000. Et bien, c'en est fini de sa production, vient d'annoncer la marque, qui en aura vendu quand même 450 millions puisque les smartphones et les plateformes, oui, là aussi, ont tout balayé sur leur passage.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo, avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Marie-Pierre, un peu plus de grisaille.
Et oui, Nicolas, surtout sur la façade atlantique, déjà des Pays de la Loire au Pays Basque, c'est bien gris avec des nuages bas, parfois doublés de brouillard encore, qui vont vite se dissiper ce matin dans l'intérieur pour faire place au soleil à la mi-journée. Par contre, sur le littoral aquitain, les nuages bas seront tenaces, éloigneront temporairement cet après-midi avant de revenir en soirée. Puis on a toujours cette dépression qui est tenace, qui descend d'Islande et qui arrive aujourd'hui à rentrer davantage de la Bretagne au Cotentin à la Côte d'Opale, où le temps sera gris avec des averses même du Finistère au Cotentin. Et comme en été en montagne, on aura toujours ces cumulus qui vont se former au fil des heures et donner parfois une averse sur les Alpes du Sud, les Pyrénées-Atlantiques et le relief corse.
Mais ce sera plein soleil sur les trois quarts du pays.
Oui, avec même un peu de vent de sud qui se lève de la vallée du Rhône au Val-de-Saône, soufflant à 70 km/h. Et puis sur la moitié nord, on aura aussi un petit vent de sud-ouest qui ventilera l'atmosphère. Côté du Mercure, ce sera contrasté matin comme après-midi, même si ça va monter d'un cran sur l'axe Toulouse-Clermont-Ferrand, le centre du pays à la Alsace, on va atteindre les 30 degrés. On les dépassera même sur la plaine toulousaine, 32 à Auch. Mais vous aurez seulement 20 à Saint-Jean-de-Luz, 18 à Quimper et Boulogne-sur-Mer, 19 à La Rochelle, mais 28 à Angoulême. Pas plus de 20 au Havre, 21 à Bonifacio, comptez 23 à Lille, 26 à Marseille et 27 à Paris.
Merci Marie-Pierre. Il est 8h20.